RFI. Le Monde à midi.
Les Nations Unies ont encore fait part de leur inquiétude concernant la ville d'El-Fasher au Soudan. Cette localité du Darfour, plutôt épargnée jusqu'à présent par la lutte à mort entre les généraux Al-Burhan et Hemeti, la guerre dans laquelle les deux rivaux entraînent leur pays depuis plus d'un an. Mais El-Fasher est totalement assiégée depuis des mois par les paramilitaires FSR du général Hemeti et on craint le pire sur le plan humanitaire, d'autant que les combats se rapprochent. Notre invitée pour en parler est maîtresse de conférences en géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour Alice Franck.
Bonjour.
Quelle est la situation aujourd'hui à El-Fasher? Est-ce qu'on arrive à avoir des nouvelles des personnes qui y vivent?
Alors oui, il y a quelques nouvelles qui filtrent, même si c'est très compliqué, mais peut-être remettre depuis quelques jours, en fait, quelques semaines, les craintes se renforcent sur les possibilités d'une attaque des Rapid Support Forces sur la ville d'El-Fasher, qui représente en fait le dernier bastion des forces armées et le dernier refuge pour une population qu'on estime à entre 800 000 et 1 million de personnes dans une région du Darfour qui est particulièrement touchée par les combats depuis le déclenchement de la guerre en avril 2023. Et je voudrais revenir sur le fait que cet éphémère refuge est à mettre en relation en fait avec la présence dans la région et dans la ville d'El-Fasher d'une importante communauté Zarawa, qui est un groupe transfrontalier à la fois sur la Libye, le Tchad et le Soudan, dont la position politique de pouvoir est très différente au Tchad que du côté Soudan, puisqu'ils appartiennent au groupe du président Déby. Il semblait être parvenu un temps à négocier ce fragile équilibre.
C'est pour ça que la ville d'El-Fasher avait été épargnée jusqu'à présent, parce qu'au début de la guerre, les FSR, les Rapid Support Forces, avaient avancé vraiment très rapidement au Darfour. Sauf là, c'est pour cette raison, à cause de cette présence, que jusqu'à présent, la ville avait été plutôt épargnée.
Notamment, il semblait être parvenu en fait à négocier un fragile équilibre, mais la situation est plus complexe puisque les Rapid Support Forces, qui comptent dans leur rang aussi d'autres groupes transfrontaliers, ont eux aussi des soutiens au Tchad et via le Tchad, où arrive l'aide et notamment le soutien armé livré par les Émirats Arabes Unis au Tchad. La situation a évolué. Mettant à mal ce fragile équilibre, que ce soit parce que le consensus au sein des Zarawa s'est disloqué ou que ce soit parce que les Rapid Support Forces ont décidé de prendre ce qui reste de la dernière ville du Darfour hors de leur contrôle.
Alors, puisque vous nous avez parlé des Zarawa, je voulais vous parler de ce témoignage qui a été obtenu par nos confrères des observateurs de France 24 qui ont parlé à un homme disant qu'il y avait des craintes réelles que ce conflit ne glisse vers des exactions ethniques contre les Zarawa. Il parlait de la peur de voir les massacres commis l'an dernier à El Geneina de se reproduire, donc contre des communautés non arabes. Est-ce que vous pensez en effet que ce risque existe aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. On assiste en fait au déplacement de troupes lourdement armées aux abords de la ville, à des attaques de villages alentours qui vont en fait renforcer le nombre de déplacés au sein de la ville d'El-Fasher. Donc la ville d'El-Fasher, vous l'avez dit, est en situation de siège et cette situation a été confirmée dernièrement par les Nations Unies, mais ça fait des semaines que les activistes soudanais tentent d'alerter la communauté internationale sur le danger qui plane sur une population qu'on estime à environ 1 million de personnes. Les craintes de massacre, elles sont de grande ampleur, elles sont effectivement à mettre en perspective avec ce qui s'est passé plus tôt à El Geneina en 2023, où sont désormais documentés des massacres de masse qui ont visé spécifiquement des populations massalites, faisant entre 10 000 et 15 000 morts, selon un rapport de l'ONU publié récemment.
Donc on comprend bien le risque humanitaire catastrophique que pourrait avoir une offensive sur cette ville d'El-Fasher. Elle abrite aussi plusieurs mouvements rebelles, on a parlé de certains d'entre eux. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur la suite de la guerre ?
Alors, juste pour finir, dans le cas d'El-Fasher, la situation elle est plus préoccupante que dans le cas de Geneina, si on peut dire, puisqu'elle intervient dans une ville où l'ensemble des routes est aux mains des RSF, et alors qu'à Geneina n'est qu'à une dizaine de kilomètres du Tchad, ce qui rend la fuite extrêmement difficile. Par ailleurs, l'armée, vous l'avez dit, l'armée peut envoyer aussi l'aviation et va contribuer par ce biais-là à faire également des victimes civiles. Et Enfin, ça intervient un an après le démarrage de la guerre sur une population qui est largement vulnérabilisée. Et les appels de la communauté internationale et humanitaire à éviter une famine généralisée commencent à se faire entendre. Et on sait que dans le camp de Zamzam, qui est à El Fasher, plusieurs enfants sont d'ores et déjà morts de faim, que la situation humanitaire est particulièrement catastrophique. Un seul hôpital fonctionne, l'accès à l'eau, tout est compliqué. Donc la perspective, vous demandiez un terme de perspective sur la fin de la guerre, je pense qu'il faut prendre un peu de... La perspective est actuellement dramatique si on considère que cette guerre, elle s'inscrit à la suite du conflit au Darfour, démarré en 2003, où à cette époque, les forces armées avaient réagi, le régime avait réagi extrêmement violemment aux revendications de plus de justice et de meilleure redistribution du pouvoir par les rebelles darfouris et avait mis en place finalement des supplétifs miliciens qu'on appelait les Janjaweed et qui, cette utilisation des milices est une récurrence hein, de la
Donc il y a
gestion
des
des
groupes
périphéries par la
armés
violence.
constitués qui existent et qui pourraient de fait se retrouver impliqués dans cette guerre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Alice Franck, maîtresse de conférences en géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci.